Bienvenue dans le podcast de la Maison des maternelles. Aujourd'hui, Élodie nous racontera la terrible blessure qu'elle a subie 48 heures après son accouchement à la maternité. Son conjoint lui a annoncé qu'il la quittait. Ensuite, la psychanalyste Sophie Braun va nous expliquer pourquoi certains futurs papas prennent la fuite autour de la naissance. C'est vrai que parmi les nombreuses épreuves qu'une femme peut affronter dans sa vie, celle qui suit se positionne quand même, on va dire, dans le top 5 minimum. Bonjour Élodie.
Bonjour Agathe.
Élodie, vous êtes la maman de Victor qui a 5 ans et demi et d'Héloïse qui a 2 ans et demi. Et 48 heures, donc je le disais tout à l'heure, après la naissance de votre fils aîné, votre compagnon vous a annoncé à la maternité qu'il vous quittait. Voilà. Donc c'est un cataclysme qu'on n'imagine même pas, surtout dans une situation comme celle-là. Parce que même dans une situation normale, c'est un cataclysme. Mais là, quand on vient d'avoir un bébé, c'est terrible. Alors vous êtes très heureuse aujourd'hui. Vous avez retrouvé l'amour. Votre témoignage sera porteur d'espoir. Et donc on a très envie d'entendre comment vous avez fait, quelles ressources vous avez trouvées justement pour vous sortir de tout ça. On va raconter un peu votre histoire. Il y a 10 ans, donc à 25 ans, vous rencontrez le père de Victor. Vous avez plein de points communs, notamment l'envie de fonder une famille d'ores et déjà quand vous rencontrer. Vous allez vous lancer 2 ans après. Il va vous falloir passer par un parcours long, fastidieux de PMA et vivre l'épreuve d'une fausse couche. Donc tout ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais heureusement, en décembre 2016, le deuxième transfert d'embryon fonctionne et vous êtes enfin enceinte. Alors à ce moment-là, dans quel état d'esprit vous êtes d'ailleurs tous les deux? Comment ça se passe quand vous annoncez à votre conjoint que vous êtes enceinte?
Bah à ce moment-là, on est très heureux. On est fou de joie, enfin, comme vous le dites, enfin enceinte. Donc je fais très attention parce que c'est une grossesse précieuse. Donc j'arrête le sport, j'arrête les activités un petit peu extra-professionnelles que j'avais à ce moment-là. Et on vit très bien ce début de grossesse. Parallèlement, j'organisais notre mariage et la construction de notre future maison. Parce que l'accouchement était prévu début août et le mariage au mois de septembre 2017. Donc voilà.
Donc tout le monde est très heureux à ce moment-là. Exactement. Votre conjoint, il est très impliqué. Il est avec vous, il vous protège, etc. Tout se passe très bien. Alors à quel moment est-ce qu'il a commencé à changer d'attitude?
Alors c'était vers le mois de mai, vers la mi-mai, donc à peu près deux mois avant mon accouchement, où il commence à être distant, à être beaucoup moins présent physiquement à la maison. En parallèle, ma grossesse se complique à ce moment-là. Donc, j'ai pas mal de contractions. Donc, je suis arrêtée. On me demande de rester alitée le maximum de temps. Et mon conjoint part pour 10, 12, 14 heures parfois par jour pour son travail. Il est distant physiquement et me propose à ce moment-là de reporter notre mariage pour des raisons de santé.
D'accord. Et vous, vous dites quoi à ce moment-là?
Bah, j'étais très étonnée, effectivement, donc je l'ai beaucoup interrogé sur ce qui se passait, s'il avait des doutes, etc. Et il était très rassurant. Passait son temps à me dire que tout allait bien, qu'il m'aimait, qu'on allait enfin fonder notre famille, mais qu'il avait beaucoup de travail, que c'était compliqué à son travail, etc.
Et il allait quand même aux échographies?
Alors, il venait au début, et puis sur la fin, il commençait à être de moins en moins présent. Alors, il venait, mais il est venu sur les 2 dernières, par exemple, il est venu en retard. Il m'a laissé être déposé par une de mes amies, puisqu'il ne pouvait pas, a priori, pas se libérer professionnellement pour venir.
Oui, donc vous commencez à vous dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. En juillet, c'est-à-dire un mois avant la naissance de votre bébé, le futur papa donc finit par vous dire « bah écoute, je suis totalement perdue ». Et votre entourage vous rassure, vous dit bah non, c'est certainement parce que le bébé va arriver, donc il commence à angoisser, tout va rentrer dans l'ordre quand le bébé sera là. Ça vous rassure un petit peu. Comment ça s'est passé quand le bébé est arrivé alors?
Alors Victor est né donc le 4 août hein, par césarienne programmée et mon conjoint était physiquement présent, mais je dirais mentalement totalement absent. Il était à côté de moi, certes, mais il ne m'a pas touchée, il ne m'a pas rassurée lors de cet accouchement. Par chance, j'ai eu un anesthésiste exceptionnel, hein, vraiment, qui était à côté de moi, qui me caressait les cheveux.
Vous pensez qu'il a senti l'anesthésiste, cette distance?
C'est possible, hein, c'est possible, effectivement, qu'il ait senti quelque chose, parce qu'il était vraiment dans un rôle presque de père, en disant « mais vous êtes formidable, c'est génial ce que vous faites ». Et mon conjoint était à côté, sans un mot, totalement... absent.
Alors là, qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que vous commencez à lui poser des questions, non, j'imagine?
Alors finalement, c'est 48 heures après la naissance de Victor. Au début, il est présent physiquement, il est là, il s'occupe un petit peu de Victor dans notre chambre à la maternité. Le premier soir, il ne souhaitait pas rester avec nous, donc je l'ai presque supplié de rester puisque je ne pouvais rien faire sortant d'une césarienne. Oui. Il est resté, mais l'ambiance était lunaire. Enfin, il ne m'a pas dit un mot, il est resté sur son petit lit à côté, il s'occupait du bébé, mais ne me parlait pas, m'ignorait totalement. Donc, je ne comprenais pas. Le lendemain, les visites se sont un petit peu enchaînées. Mmh. Et finalement, le surlendemain, donc 48 heures après, on reçoit un couple d'amis. Et mon conjoint s'absente avec l'autre homme pendant presque une heure.
Ils partent en copain ?
Ils partent entre copains, mmh. À la cafétéria de la maternité. Ils reviennent et l'ami est blanc. Il revient.
Là, vous le remarquez. Vous dites, tiens, il fait une tête d'enterrement.
Exactement, oui, tout à fait. Et donc, ils s'en vont, nos amis, et j'interroge mon compagnon alors en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a l'air pas bien du tout. » Et là, il m'annonce froidement, je lui ai annoncé que le 1er septembre, je déménage et je te quitte.
Et donc là, on était le 6 août. C'est voilà. On n'imagine pas la violence, parce que évidemment, c'est déjà une tempête affective d'avoir un bébé, mais alors là... Donc, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti ? Enfin, puisqu'on parle de violence, est-ce que vous avez compris tout de suite ce qui se passait, surtout ?
Alors, sur le coup, je n'ai pas réalisé. Clairement, je me suis effondrée, j'ai pleuré. Et lui, il est parti, il a quitté la maternité. Je le voyais partir par la fenêtre. Donc, je l'ai rappelé en lui disant qu'il ne pouvait pas me laisser comme ça, que ça n'était pas possible. Donc, il est revenu, il s'est occupé de Victor, l'a mis dans son berceau et m'a laissé, moi, par terre, dans la chambre, à la maternité, effondrée.
Vous êtes dit quoi ? Vous êtes dit... Vous rejoignez un petit peu ce que vous disiez votre entourage avant, c'est parce que c'est la tempête de l'arrivée du bébé, il va revenir, il va retrouver ses esprits.
Alors c'est ce que j'espérais, forcément au fond de moi, je me disais c'est pas réel en fait. La première idée qui m'est venue à ce moment-là, c'est de dire c'est un cauchemar, je vais me réveiller. J'ai d'ailleurs, sur l'instant, je n'en ai parlé à personne. Hein. J'ai pas osé verbaliser les choses, de peur que ça devienne réel hein, finalement.
C'est ça. Ouais. Ça aurait rendu la chose définitive. Alors, à quel moment est-ce que vous avez réalisé qu'il vous quittait vraiment, votre compagnon ?
Alors, on est rentré de la maternité et il était totalement absent. Donc, c'était son congé paternité. Il partait de 7h le matin à 20h le soir, me disant qu'il allait acheter des meubles pour son nouvel appartement, etc. Donc, il m'a laissé totalement gérer Victor, sachant que les débuts, premier enfant, c'est relativement difficile. Et j'avais pas mon entourage puisque j'en avais pas parlé. Donc les gens pensaient qu'on nageait en plein bonheur. Donc au bout d'une dizaine de jours, je l'ai interrogé en disant est-ce que ta décision est ferme et définitive ? Et si tel est le cas, je lui ai demandé à ce moment-là de quitter, de partir et de quitter plutôt notre maison.
Oui, c'est invivable de voir son compagnon acheter des meubles et construire sa nouvelle vie alors qu'en plus on a un bébé dont on doit s'occuper. Alors, si on doit aider et conseiller les téléspectateurs qui vivent la même situation, Élodie, comment est-ce que vous avez fait, vous, pour trouver les ressources pour vous sortir de cette déflagration ?
Alors, je dirais avant tout que moi, ce qui m'a aidée, c'est toujours de me dire qu'après la pluie, il y avait le beau temps. Mmh. C'est vraiment, ça a été mon
leitmotiv. C'est votre nature.
Tout à fait. Mmh. Alors, tout d'abord, je me disais que pour Victor, je n'avais pas le droit de me laisser aller parce que mon fils était là, il n'avait rien demandé à personne. D'autant qu'on a provoqué le destin avec cette PMA. Mmh. C'était pas écrit d'avance. Donc, je me disais, pour Victor, je me lève chaque jour un pied devant l'autre. Et ensuite, je m'étais fait une promesse, c'est de ne pas vivre pour mon fils. L'idée, c'était de dire, avant tout, je reste une femme, je suis une mère, mais j'étais quelqu'un de très occupé avant. Je fais plein de choses. Je suis élue dans ma commune, je suis présidente de deux associations, une association de danse et une association de self-défense. Je suis professeure de yoga, professeure de danse, donc en plus de ma carrière professionnelle. Donc voilà, je me suis plongée un petit peu dans tout ça, dans ce duo que je formais avec mon fils.
Vous avez été bien entourée, vous avez des bonnes copines.
Oui, alors j'ai eu la chance, une fois que ça a été verbalisé, d'avoir un entourage absolument incroyable. Mes parents, mes frères, ma famille, mes amis, mes collègues de travail, enfin tout le monde a été absolument incroyable. Et mes amis, pour mes 30 ans, ont décidé de m'emmener en week-end. Donc elles ont tout organisé. Donc ça devait être le week-end de ce fameux mariage. Et on est parti en week-end à 3, 4 avec mes copines pour se détendre.
Voilà, et fort justement de cet appétit de vivre et de cette envie de vous en sortir et de vous occuper de vous et d'être heureuse malgré tout, 4 mois après le tsunami, je dirais, vous avez rencontré Willem. Ça n'a pas été trop difficile quand même de refaire confiance à un homme parce que ça a été tellement soudain ce qui vous est arrivé.
Complètement. Alors, j'ai rencontré Will, effectivement, 4 mois après la naissance de Victor. Et pour le coup, c'est un personnage. Hein. J'aime beaucoup à dire qu'il est extraordinaire, hein, vraiment au sens littéral du terme. C'est quelqu'un qui m'a apporté énormément de choses. Mais au départ, oui, c'est très compliqué de refaire confiance. Donc, on s'était dit, on y va très doucement. Et c'est quelqu'un de très transparent, très cash. Donc, l'une des premières choses qu'il m'a dites au début, c'est « moi, j'aime pas les enfants ». Pas de chance.
Pas de chance, j'en ai un de 4 mois.
C'est ça. Donc, mais finalement, on a décidé pendant plusieurs mois de se fréquenter sans rien officialiser, sans pression. C'était vraiment ça l'idée du démarrage.
Et puis après, bah, il n'aime pas les enfants, mais il vous en a fait quand même. Hein.
Oui. Alors finalement, c'est grâce à Victor. Hein. Et ça, il le dit toujours parce qu'avec Victor, ils se sont apprivoisés. J'aime beaucoup cette image. Comme dans Le Petit Prince, finalement, Will a découvert ce que c'était d'avoir des enfants. Victor a découvert ce que c'était que d'avoir un homme à la maison, une figure paternelle de référence. Et aujourd'hui, l'un comme l'autre, pour Will, Victor, c'est son fils. Hein. Quand bien même il n'a pas été là à la conception, ça reste son fils. Et inversement, pour Victor, c'est son deuxième papa.
Donc tout est bien qui finit bien, dans une belle famille recomposée, avec un nouvel enfant. Est-ce que votre ancien compagnon vous a expliqué ce qui s'était passé? Est-ce que vous avez pu avoir une conversation à un moment?
Oui, alors après, un mois après son départ de la maison, il revenait de temps en temps à de très rares fois pour voir Victor. Et là, j'en pouvais plus. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on discute. Parce qu'au début, ses arguments, c'était de dire « je suis perdue, je suis en dépression, je ne vais pas bien, etc. » Et là, en fait, il m'annonce le poteau rose, me disant qu'en fait, non, il n'y avait rien de tout ça, qu'il avait simplement quelqu'un d'autre, donc une autre femme derrière tout ça, depuis 9 mois, donc depuis quasiment le début de ma grossesse.
Ça, c'est dur à entendre.
Et effectivement, alors, d'un coup, j'ai été rassurée, un peu soulagée de me dire « ok ».
Ça mettait du sens.
Ce n'est pas une dépression, voilà, ça expliquait un petit peu les choses. Et finalement, de me dire « c'était tout simplement une banale histoire d'adultère ».
Sophie Braun, bienvenue. Merci. Quel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, auteur, entre autres, du livre « La tentation du repli ». C'est aux éditions Mot Conduit. C'est vrai que, à l'instar d'Élodie, il y a beaucoup d'histoires de femmes qui sont quittées pendant la grossesse ou juste au moment où le bébé arrive. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent expliquer que ce soit ce moment-là que choisissent les pères pour partir ?
Oui, il y a plusieurs raisons, je crois, qui font ça. Alors, c'est vrai que c'est très fréquent et qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment bien que vous fassiez une émission sur ce sujet parce que les femmes ont honte aussi de ça, évidemment. C'est très honteux de se faire quitter à ce moment-là. Enfin, c'est honteux de se faire quitter de toute façon.
On a une injonction à être heureuse, en plus. Donc, voilà. C'est pas le moment, quoi.
Donc, c'est très difficile. Alors, on n'en parle pas beaucoup et c'est bien qu'on commence à en parler. Il y a plusieurs raisons. Moi, je trouve que ça nous raconte à quel point l'inconscient, ça existe. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui pensent qu'ils sont prêts à devenir pères, et en réalité, ils ne le sont pas. Et donc, au moment où ils prennent conscience qu'ils deviennent pères, ils fuient. Ils fuient la situation. Et il y a vraiment quelque chose comme un tsunami intérieur qui fait qu'ils ne peuvent pas s'engager dans cette transformation du couple à la famille. Et quand même, devenir père ou mère, c'est prendre la responsabilité d'une autre vie.
Et donc, c'est ça qui se joue à ce moment. Et le fait de choisir ce moment-là pour avoir une histoire adultère aussi, donc une maîtresse, c'est ça aussi.
Il me semble, je crois que c'est... Alors ça aussi, c'est très fréquent, c'est peut-être encore plus fréquent, hein, les pères qui trompent leur femme à ce moment-là. C'est extrêmement fréquent. Je crois qu'il y a quelque chose... Oui, ils ne le savent pas, mais ils ne sont pas prêts. Et ça veut dire qu'il faudrait accompagner aussi les hommes. Je pense que les hommes, par exemple, qui font de l'autonomie ou quand il y a un suivi des couples, ça permet d'exprimer les angoisses aussi. Alors que les femmes, elles ont 9 mois pour avoir le bébé dans le ventre. Alors quelque chose se prépare, quelque chose peut se dire. On entend les angoisses des femmes, elles se parlent entre elles. L'accouchement, ça va être comment? S'occuper d'un bébé, c'est comment? Les hommes, peut-être, ils n'en parlent pas encore. Mmh. Et ils ont peut-être encore peur de paraître faibles ou d'exprimer leurs angoisses. Alors, ça explose tout d'un coup. C'est un peu un phénomène de cocotte minute qui explose. L'autre raison, c'est que... Alors, il y a deux autres raisons. L'autre raison, c'est l'histoire du changement aussi du corps des femmes. Il y a évidemment quelque chose dans le fait d'être enceinte qui change beaucoup, ça, je ne vous apprends pas. Et ce corps qui change et qui devient le corps d'une mère, c'est parfois aussi extrêmement difficile pour un homme de pouvoir le supporter. Et donc, ça fait des tas de raisons ensemble, très inconscientes, et qui n'arrivent pas à la conscience. L'inconscient, c'est ce qu'on ne connaît pas. Dès qu'on dit inconsciemment, je crois que, c'est déjà plus inconscient, puisqu'on le sait. L'inconscient, c'est des forces à l'intérieur de nous qu'on ne connaît pas, qui viennent souvent de notre éducation, de quand on a été bébé, de quand on a été enfant, et qui explosent à certains moments.
On va vous poser les questions de nos téléspectateurs. On va commencer par celle de Lucie, qui vous dit « Quand mon mari m'a quittée à 7 mois de grossesse, ma vie est devenue un enfer. Mon bébé a-t-il pu ressentir toutes mes émotions ? Cela a-t-il pu le fragiliser ?»
Alors, ça, c'est une question essentielle. Avec mes patients, je me bats beaucoup pour leur expliquer qu'un bébé dans le ventre, il n'a pas encore de pensée, il n'a pas encore de psychisme. Ce sont des sensations, mais des sensations, on appelle ça des proto-sensations. Donc, il faut qu'on arrête avec l'idée que tout ce qu'on vit quand on est enceinte, ça traumatise le bébé dans le ventre. Parce que les femmes deviennent extrêmement fragiles à cause de ça. Donc, bien sûr, si on vit quelque chose de terrible, et ça, c'est vrai que c'est terrible d'être quitté, ça peut avoir des répercussions. Mais n'exagérons pas, ce bébé ne devient pas une victime, il n'est pas traumatisé à vie à cause de ça.
D'accord, mais ça, c'est rassurant.
Ça, c'est vraiment important. Il va aussi... Ça va dépendre de comment la mère le vit. Ça ne veut pas dire être forte, ça ne veut pas dire « il ne se passe rien », ça veut dire justement d'accepter d'être triste, et d'accepter d'être triste sans se dire « je suis en train de détruire mon bébé », accepter d'être triste, d'être mal, mais de se dire que la vie de la maman n'est pas fichue à cause de ça, et la vie du bébé encore moins.
Lara nous dit « notre couple a explosé à la naissance de notre enfant, j'ai remis en question tous mes choix de vie ». Comment expliquer que l'arrivée d'un enfant puisse mettre le couple en danger, voire signer sa fin ?
Alors, là aussi, je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est la question de l'engagement. On est dans des vies, aujourd'hui, nos vies modernes, l'engagement est de plus en plus difficile, on le voit bien. C'est-à-dire que l'adolescence, elle dure de plus en plus longtemps, on dit qu'aujourd'hui, elle s'arrête à 30 ans. Et l'adolescence, c'est quoi ?
Il y a la crise de la quarantaine qui arrive à 35 ans.
C'est ça, donc on a une petite fenêtre, pas très grande. Et c'est vrai que la question de l'engagement, de se dire « je vais rester pendant des années avec quelqu'un », ça fait peur. Donc, il y a déjà cette question-là. Et je crois qu'il faut qu'on retravaille ces questions de l'engagement. Parce qu'on peut être engagé et vivre la vie comme une aventure quand même. C'est pas parce qu'on est avec la même personne que c'est plan-plan.
On n'a pas des menottes, on n'est pas dans une cellule. Quoi.
Voilà. C'est pas une prison, le couple.
Non, puis c'est formidable de se dire « tiens, on va... vivre des aventures avec un partenaire de vie.
Absolument.
Un soutien, quoi.
Et donc, avoir un enfant, on peut être curieux, on peut le vivre comme ça, comme une nouvelle aventure. Et ça, c'est intéressant. Après, le passage du couple à la famille, il réveille des tas de choses, notamment dans les modèles qu'on a eus, dans ce qu'on a vécu enfant. Qu'est-ce que c'est le modèle familial ? Il y a des choses qui s'entrechoquent là et qui peuvent faire que c'est très, très difficile et puis qu'on n'y arrive pas, là encore.
Merci à Sophie Braun, merci à Élodie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager.